Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tati Mampoukou. Okapi.
Mesdames et messieurs, vous suivez la fréquence de la paix, vous écoutez en ce moment les magazines de la vie au quotidien au Capi Service. Comment améliorer l'accès aux services financiers de la population congolaise? C'est la thématique que nous traitons dans Capi Service et nous recevons dans ces studios pour en parler. Monsieur Carlos Kalambai Kabangu, il est directeur général du Fonds de promotion pour la microfinance, FPM en sigle. Bonjour monsieur Carlos Kalambai.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Capi Service. Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-6394, au numéro 081-890-63-94. Envoyez-nous vos questions, témoignages et suggestions au courriel dénommé service@radiocapi.net. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Merci aux internautes qui ont déjà posté leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Nous lisons la réaction de M. Félix Epanjola, qui nous a écrit depuis la ville de Kananga. Il nous dit ceci: les préalables pour l'amélioration d'accès aux services financiers par la population congolaise seraient pour l'État congolais d'assainir les secteurs tels que l'économie à travers les crédits agricoles, la situation politique, les sociales du pays, puis mettre en place une bonne gouvernance, construire de nouvelles infrastructures routières, sanitaires qui pourront permettre à la population congolaise de faire des transactions commerciales, sans oublier la création des entreprises et des emplois pour les peuples qui a tant souffert. Tati Mampoukou est à la présentation de ce magazine des faits des sociétés. Marcel Ngomo réalise et coordonne cette émission. Dieudonné Nyangasa vient d'être remplacé par Jean-Claude Tial à la prise des sons. Jean-Marc Matoki s'occupe de la supervision de ces numéros. Bonne condition d'écoute de ce magazine des faits des sociétés.
Oh Mario,
tout le monde
Les grands succès musicaux d'IFIE d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien, le magazine Okapi Service, le magazine des faits de société de Radio Okapi. L'accès aux services financiers est l'un des grands obstacles que rencontrent les populations congolaises pour améliorer leurs conditions de vie. Très souvent, ce sont les Congolaises et Congolais qui sont employés par les entreprises publiques et privées et les ONG qui ont facilement accès aux services financiers qu'offrent les banques commerciales implantées en RDC. Selon les PNUD, moins d'1% de la population congolaise avait accès aux services financiers en 2009. La situation a tendance à s'améliorer sur terrain avec la présence des structures de microfinance installées à Kinshasa et dans d'autres contrées du pays. Comment améliorer l'accès aux services financiers à la majeure partie de la population congolaise? Nous abordons ce thème avec M. Carlos Kalambai. Nous rappelons qu'il est directeur général du Fonds de promotion pour la microfinance. D'entrée de jeu, que devons-nous comprendre, M. Kalambai, par les services financiers qu'offrent les banques et les institutions de microfinance en RDC?
Merci monsieur. Les services financiers offerts par les institutions financières en RDC, si nous devons parler de cette offre particulièrement des petites et moyennes entreprises, aujourd'hui nous avons dans le secteur financier plusieurs types d'institutions. Nous avons les banques, nous avons les institutions de microfinance, Nous avons les coopératives d'épargne et de crédit. Et certes, nous avons aussi des institutions spécialisées comme les sociétés financières en RDC. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un marché de capitaux qui est encore développé. Et au niveau des banques, il y a plusieurs types de banques. Il y a des banques de détail, il y a des banques commerciales, il y en a qui sont axées vers les investissements. Mais aujourd'hui, il y a aussi des banques de microfinance qui financent les petites et moyennes entreprises. Mais il y a aussi des banques commerciales aujourd'hui qui font ce qu'on appelle le downscaling, c'est-à-dire qui offrent aussi des services financiers aux petites et moyennes entreprises et à la frange de la population exclue du secteur financier classique. Mais nous avons aussi des institutions de microfinance et les coopératives d'épargne et des crédits qui ont plus d'ancrage social au niveau de la RDC. Et il faut souligner que au niveau des banques aujourd'hui, ils ont près de disons 92% de part du marché en fait financier en RDC. Et le secteur de la microfinance et les coopératives se répartissent pratiquement moins de 5% en fait, ce qui donne déjà une image de ce service financier envers cette frange de la population.
Et concrètement, comment se traduit ces services envers les clients?
Alors, ces services, le rôle d'une institution financière, premièrement, c'est collecter l'épargne, c'est-à-dire l'excédent de la consommation, mais aussi faciliter les transactions de certains clients et la circulation de la monnaie au sein d'une économie, au sein d'une communauté. Et d'autre part, ce que collecte l'institution financière, il peut aussi le redistribuer à ceux qui sont en besoin de financement.
Concrètement, je veux avoir une idée maintenant parce que le PNUD nous révèle qu'en 2009, c'est seulement 1% de la population congolaise qui avait accès à ces services, mais la situation a tendance à s'améliorer. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'évolution des services financiers ici chez nous en RDC?
Oui, il y a eu des grandes évolutions, ces 10 à 15 dernières années. Mmh. Vous vous rappellerez que après les années fin 90 et au début des années 2000, le secteur financier était pratiquement par terre. Il n'y avait pas beaucoup
Des banques commerciales.
Presque tout était en faillite.
Oui.
Et c'est aux alentours de 2002-2003 que nous avons vu certaines institutions revenir dans le secteur de la microfinance comme Finca, et nous avons vu certaines banques commerciales prendre naissance dans le secteur financier congolais. Et cette évolution a continué jusqu'au milieu des années 2000 où il y a eu des offres concrètes de services financiers. On a vu un accès à tous. Rappelez-vous que la plupart d'institutions bancaires, il y a 15 ans, avaient des agences uniquement à Gombe. Mmh. Et la banque était considérée comme étant une institution pour les nantis. Ouvrir un compte, le minimum, c'était 5 000 $, 2 000 $, il fallait être parrainé. Milieu des années 2000, on a vu des institutions entrer dans le marché et essayer de vulgariser cette offre. Ce qui a augmenté l'assiette, s'il faut le comparer au début des années 2000, où nous avions à peine moins d'un million de comptes ouverts. Mais aujourd'hui, nous avons des dizaines de millions de comptes ouverts. Les dépôts à la clientèle ont pratiquement doublé depuis lors, y compris les crédits à l'économie ont doublé. Les avancées ont été énormes. Il y a 10 ans, le taux d'intérêt moyen pour avoir un prêt pour une petite entreprise était autour de 60-70%. Aujourd'hui, nous parlons d'une moyenne de 20 à 30%. Certes, c'est toujours élevé, mais si nous voyons le point de départ 2000 et à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées, mais on doit reconnaître que pour un pays qui a 2,3 millions de kilomètres carrés, avec près de 80 millions d'habitants, ce secteur reste très embryonnaire.
Et aujourd'hui aussi, disons-le, hein, ce sont des agents de l'État, ceux qui travaillent dans les ONG et qui ont facilement accès aux services financiers des banques, alors qu'il y a une grande partie de la population congolaise qui évolue dans les commerces, dans les secteurs informels, j'essaierai de tenter de le dire ainsi.
Exact. Cette intégration pose problème. Évidemment, je pourrais parler des défis. voir le secteur financier de façon isolée pourrait erroner notre analyse. Je crois que c'est un plan national, une stratégie nationale qui doit être mise en place et qui intègre beaucoup d'acteurs pour améliorer ce service. Nous avons un problème d'infrastructure, un problème d'implémentation. Il y a des institutions financières, certes, qui ont la volonté de servir la frange de la population. Malheureusement, nous avons une bonne partie de la population qui se trouve dans des zones très peu accessibles, suite à l'infrastructure, suite à un problème d'électricité. Vous savez, aujourd'hui, c'est la technologie, il faut une connexion Internet. Il y a beaucoup de barrières qui font que les services financiers n'atteignent pas nécessairement les franges de la population.
Oui, parce que surtout dans les dans certaines contrées, il y a des enseignants, par exemple, qui parcourent des kilomètres pour aller percevoir leur salaire et les activités dans les écoles sont paralysées lors de la paye. Ça, c'est une réalité.
Oui, exact, exact. C'est un vrai défi, c'est un vrai problème. Mais sur ce point-là, je voudrais mettre un peu d'eau dans le vin pour dire que il y a beaucoup d'institutions qui aujourd'hui font un effort parce que
pour aller vers les clients.
Vers les clients, via la monnaie mobile, le mobile money, via les cartes bancaires. Certains ont mis des outils via des SMS et tout pour avoir cette facilité. Comme je dis, c'est un tout. Le développement y est, mais ce problème reste un vrai problème qui doit être adressé. Pour moi, pas de façon sectaire, mais vraiment sur base d'une stratégie nationale pour pouvoir faciliter cet accès qui, en fait, est la source de développement, surtout dans les contrées se trouvant dans des milieux ruraux.
Monsieur Carlos Kalambayi, je rappelle que vous êtes directeur général de FPM, les fonds de promotion pour la microfinance. À part la barrière liée à la dimension, à la taille du pays, est-ce que je peux avoir d'autres contraintes qui font que le service financier ne soit pas assez accessible à la majeure partie de la population congolaise?
Oui, il y en a. J'ai parlé d'une part, nous avons la responsabilité des autorités gouvernementales okay, dans le pays, c'est-à-dire il faut qu'il y ait toute une stratégie qui est mise en place pour cette intégration. Deuxièmement, nous avons le secteur financier lui-même, c'est-à-dire les institutions financières. La grande barrière aussi, c'est se trouve au niveau du coût okay, d'accès à ces services qui pourrait poser problème à une certaine frange de la population. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette volonté de faire un dépôt dans une institution, quoique c'est assez modeste, et puis de voir sur ce dépôt certains frais être ponctionnés, ça pose aussi une barrière. Du côté des consommateurs, la population en général, il y a aussi un vrai problème de prise de conscience, ce que nous appelons l'éducation financière. Certaines personnes ne sont pas informées. Certaines personnes ont peur des institutions financières, soit parce qu'ils entendent. Il y a cette asymétrie d'information entre le secteur financier et les consommateurs qui pose aussi un véritable
problème. Oui, parce que certains clients aussi ont été victimes des faillites de certaines institutions de microfinance et puis ça a créé la crise de confiance au fait.
Exact. C'est un vrai point qui je pense que c'est un vrai point aujourd'hui qui est un handicap au niveau des services financiers du secteur bancaire. Mais vous allez reconnaître que ça fera pratiquement près de 5 ans qu'on n'a plus connu des gros crashs, en fait. Je crois que au niveau des institutions financières et même au niveau de la Banque centrale, certaines mesures sont en train d'être prises pour tout justement renforcer la surveillance de ces institutions financières. Je vous rappellerai que en 2013, nous avions près de 180 institutions de microfinance et coopératives d'épargne de crédit. Mais aujourd'hui, nous n'avons que moins de 80, c'est-à-dire que beaucoup sont en train d'être fermés suite à cette
à l'assainissement du secteur bancaire.
Et d'autre part, je crois que ces chocs sont aussi dus quelque part à cette éducation financière. Parce que certes, il y a une surveillance, certes, mais les gens doivent être en mesure et doivent être capables aujourd'hui à identifier des institutions financières qui sont fiables, qui sont solides. C'est-à-dire que quand vous allez déposer votre argent parce que vous voyez juste un logo, on l'a vu, surtout dans la partie Est, on met coopérative IMF, mais qui n'est pas agréé, et on vous propose un taux d'intérêt de 12% pour vos dépôts, et il y a cette attraction, et généralement qui fait que ces personnes, en très peu de temps, collectent beaucoup d'argent sans pour autant avoir
en mesure de satisfaire les services
de gestion d'institutions financières. Et ce qui fait que ça causait beaucoup de faillites, mais il y a aussi des grosses banques, ça il faut le dire, qui sont tombées en faillite. Mais je préfère voir les choses positivement pour dire que ces dernières années, il y a une évolution, mais ça reste un frein. Mais pour casser cette barrière, l'éducation financière s'impose. Pas seulement aux personnes assez matures et en âge d'investir, mais cette éducation financière doit commencer dès le bas âge, je dirais au niveau même de l'école déjà. On doit commencer à former, à apprendre à l'enfant comment gérer ses finances, mais comment aussi avoir une appréciation des institutions financières dans lesquelles ils investissent ou avec lesquelles ils sont partenaires.
Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-63-94 et au numéro 081-890-63-94.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Nous donnons la parole à la première vague des auditeurs qui appellent à travers les pays. Nous allons commencer par un auditeur qui intervient depuis la ville de Lubumbashi. Son nom, c'est Jérémy Mwamba. Bonjour.
Bonjour, M. Tati. Bonjour également à notre invité avec vous. Merci alors pour la pertinence que revêt ce sujet. Mais nul n'ignore que la situation financière de la plupart des Congolais est loin de retrouver son sens positif, hein, pour ne pas dire son coût normal. Mais il se pose un problème, il y a des aléas qui tournent autour de cette problématique, c'est notamment la mauvaise politique orchestrée par ces institutions financières. Les constats sont souvent amers, c'est-à-dire on constate souvent que les stratégies qui sont mises en place ne vont pas dans le sens à faciliter donc les petits peuples que nous sommes, mais bien évidemment à accepter davantage les Congolais. Au départ,
Jérémy, s'il vous plaît, est-ce que oui. tu peux nous citer un cas concret, un exemple concret sur le service que vous décriez, un exemple concret?
Oui, j'en arrive. Je peux vous dire l'exemple de banques qui sont parfois partenaires dans nos entreprises. Vous allez voir quoi. Lorsque elles viennent, par exemple, chercher le marché. Moi, je peux vous dire un exemple. Nous étions à la CND, mais il se peut que la DOA est venue, chercher le marché pour gagner. Il avait, gagné le marché pour une part. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque on s'est mis d'accord avec les agents de cette banque, nous nous sommes dit, par exemple, ceci. Lorsque un agent contracte une dette, et c'est censé qu'il doit payer et on se convient. Bon, par exemple, vous prenez pour une dette à long terme ou à moyen terme.
Pour une année ou deux ans.
Des clauses. Il y a des clauses qui sont mises en place. Mais vous allez trouver que lorsque la banque retourne, elle prend des mesures allant à l'encontre du client et son partenaire également avec lui, parce que on se rend compte que lorsqu'elles viennent, elles cherchent quand même à attirer la clientèle, mais lorsque elles tournent, vous allez voir que certaines banques peuvent parfois organiser l'épargne forcée, parce que chacun, je pense qu'un client doit être libre s'il veut épargner son argent. Il n'a qu'à épargner, au cas contraire, il doit parce que c'est vous donnez l'argent dans les comptes salaires. Ça veut dire que mais le crédit est retiré dans les comptes salaires. Mais on ne peut pas, la banque peut s'arroger le droit de retirer et de faire l'épargne forcée sans l'aval d'un client. Ça, ce n'est pas ça du tout. Mais parce que vous êtes sans ignorer que le Congo doit marcher. Et lorsque tout marche, c'est sur le plan financier et tout le monde se retrouve. On ne peut pas fixer en même temps les petits peuples dans ce sens. Non. Alors, je pense que les stratégies qui sont mises en place par certaines banques ne sont pas et sont à décrier. Il faut que les gens s'amendent. Ça, c'est tout le cas. Il y a aussi certains faits à relever. C'est notamment lorsqu'il y a des stratégies, il faut que ces deux parties donc, s'entendent. Et donc, les respects des clauses doivent être mutuels. Et en ce moment-là, on peut progresser dans ce sens. C'est pourquoi les peuples congolais ne semblent pas décoller. Il faut qu'on mette sur place une politique et dans pouvant aider le peuple congolais à se retrouver. Hein, au jour d'aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de petites entreprises financières qui peuvent être là pour aider les petits peuples, par exemple, qui sont démunis, mais qui ont besoin de décoller, mais qui sont là au dépourvu. On doit aider, c'est-à-dire mettre sur pied une politique et aussi apprendre à ces gens-là comment gérer. Hein, et comment retourner les petites choses, donc c'est-à-dire ceux qui sont retirés, par exemple, à des petites banques comme nous que nous voyons aujourd'hui. Je pense que dans ce sens, on peut faciliter cette politique, peut quand même donner l'ouverture à ce que le peuple congolais se retrouve. Sinon, lorsque le petit peuple pleure, et ça peut aussi influencer tous les échelons et tous les niveaux. C'est pourquoi notre pays et l'économie restent en berne et on ne sait pas décoller. On attend tout de l'État, que les chefs de l'État descendent ici en province pour aider même les cultivateurs. Non, on doit chercher à mettre sur place dans chaque contrée, dans chaque entité, il y a une politique qui est mise en place. On a besoin de ces gens-là pour aider tous ces petits peuples qui n'ont presque pas de moyens, question de mettre sur pied cette politique. Et je pense que lorsque tout marche comme ça, je pense que le pays peut aussi évoluer.
Merci beaucoup, Jérémy. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Retournons ici à Kinshasa, cette fois-ci pour donner la parole à M. Ngandou. Maître Ngandou, bonjour.
Bonjour, mon cher.
Qu'est-ce que vous avez à nous révéler par rapport à la thématique que nous débattons ce matin dans Okapi Service?
Bon, vous savez, cette émission, c'est une émission pédagogique, hein, avec des pareilles thématiques. C'était très important que l'invité puisse nous préciser d'abord quels sont les services financiers et que qu'une banque ou une autre institution pouvait assurer au profit d'une société ou une institution commercial. Parce qu'en réalité, je sais que les institutions commerciales ont l'obligation d'effectuer des opérations financières. Alors, il arrive qu'une banque puisse assurer, et en contrepartie de ces services-là financiers, il y a une commission qui est prélevée par la banque. Donc, je veux que l'invité puisse nous préciser d'abord les types d'opérations financières que peut effectuer une société, et puis les types de services financiers que peut rendre une banque au profit des structures qui existent. Et puis, j'allais préciser une chose, vous savez, dans ce domaine, les structures congolaises devraient, si pas congolaises, mais les structures en RDC devraient fonctionner dans la formalité. Parce que les gens évitent même la traçabilité, hein. Vous savez, au niveau d'une banque, là, c'est la traçabilité, on peut voir tout ce qui est fait. En termes, par exemple, des transferts, il y a des rapports qui doivent être établis, il y a des coupons payés, il y a des budgets de souscription. Donc, beaucoup de choses, hein, en termes de services financiers qu'une banque ou une autre institution pouvait rendre. Ces institutions-là existent, mais il est vrai qu'on n'a pas de structure formelle, la majorité fonctionne dans l'informel, et ils pensent que quand on parle de services financiers, c'est d'aller obtenir un prêt auprès d'une banque, et pourtant le prêt c'est parmi les activités d'une institution financière ou une banque, mais qui est conditionnée, hein, à beaucoup d'autres prêts, mais que nous ne remplissons pas.
Merci beaucoup, donc, Maître Gaston. L'autre invité, M. Carlos Kalambayi, DG de FPM, hein, va clarifier votre préoccupation. Merci beaucoup. Allons cette fois-ci à Kananga pour donner la parole à M. Jonas. Bonjour. Jonas Kabinda, vous êtes en ligne? Malheureusement, Jonas n'est pas en ligne. La réalisation va s'affairer pour lui remettre en ligne. Oui, il y a Junior qui vient d'entrer en ligne. Il intervient depuis la ville de Kinshasa. Junior, bonjour.
Oui, bonjour, ça va?
Très bien, merci. Bienvenue dans Okapi Service. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité par rapport à la thématique que nous débattons ce matin?
Oui, la question est la suivante. Parfois, vous savez, la population est pauvre. Mmh. La radio, il y a des microfinances qui peuvent tout simplement venir soulager la pauvreté de la population. Mais parfois, on est parfois contré à une difficulté où le bas peuple veut parfois avoir un crédit aux microfinances. Et malheureusement, ils sont guidés par beaucoup de conditions. Alors, je ne sais pas si l'invité qui nous suit tantôt peut nous donner des éclaircissements par rapport à l'accès pour aider la population à améliorer leurs conditions de vie. C'est simple la question que j'avais à intervenir là-dessus.
Merci beaucoup pour votre question. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Kalambay, il y a Jérémy Mwamba qui intervient depuis la ville de Lubumbashi, qui a décrié le fait que les banques ne respectent souvent pas les conventions signées entre les clients et la banque. Et cela est souvent source de frustration de la part des clients.
Oui, merci à monsieur Jérémy Mwamba pour sa question. Je crois que c'est un bon point. Je disais tout à l'heure que dans le marché, il y a l'éducation financière qui est nécessaire. Parce que le secteur financier, c'est aussi un marché financier. C'est comme si vous allez dans un marché, vous allez au grand marché. À un moment donné, c'est à vous de faire le choix. C'est-à-dire qu'il y a des services qui sont offerts. Et c'est à vous de voir, est-ce que ce bien, je l'achète à 20 ici, est-ce que je peux aller plus loin pour voir si on ne peut pas m'offrir le même bien?
Est-ce que la banque peut imposer au client l'épargne? C'est ça, en fait, c'est ça la préoccupation de Jérémy.
J'en arrive. Okay. Je dis, ce sont des services qui sont offerts et nous sommes dans un marché. C'est-à-dire qu'on doit éviter de voir les banques et le service financier comme étant une donnée qui est là et qui s'impose. C'est-à-dire que les services et les modalités que peuvent offrir une institution financière ne sont pas nécessairement celles qu'offrirait une autre institution financière. Alors, l'éducation financière veut que les personnes aient la capacité, avant d'entrer en relation avec une institution, avoir toutes les informations connexes sur le respect des règles, sur les clauses. Et sur ce point, je peux confirmer à M. Jérémy que la Banque centrale vient de mettre en place une série d'instructions qui obligent aux institutions financières la transparence sur les conditions et les clauses. Ça permet à chaque personne d'aller d'une institution à l'autre, de vérifier, et nous sommes dans un marché en quelque sorte ouvert et concurrentiel. C'est-à-dire que si on a une mauvaise expérience dans la banque X, elle perd en termes de crédibilité parce qu'elle ne sera pas recommandable. Mais dans le marché, il y a des institutions qui restent fiables. Bon, ce cas de non-respect de clause, bon, je ne sais pas le commenter, de façon aussi ouverte, et parce que ça dépend de politique de chaque institution, comment la clause a été respectée ou pas, ou la clause n'a pas été comprise par le consommateur. Donc, sur ce plan-là, il y a beaucoup d'éléments. Le piège est que ce sont des thèmes assez complexes et compliqués. Imposer l'épargne, je dirais, on ne peut pas l'imposer, mais si cela figurait préalablement dans les clauses et les conditions de contrat que vous avez signé, vous devez les respecter.
C'est tout à fait normal.
Donc, c'est-à-dire que l'État ou le gouvernement ne peut pas aller jusque dans ces détails parce que le marché doit être libre et ouvert, mais seulement qu'il y ait cette symétrie d'infos. C'est-à-dire que les institutions financières doivent donner des informations exactes en langage simple à leur clientèle.
Et Maître Gaston Gandou de Kinshasa voulait avoir une idée exacte sur les types de services financiers que doivent offrir les banques en RDC.
Oui, les services financiers, comme je l'ai dit, nous avons principalement la collecte de l'épargne. C'est-à-dire que les institutions, ceux qui ont un excès d'épargne, ceux qui ont de l'argent, qui savent pas le garder, mettre sous le matelas, mettre dans un sac ou sur le toit, sur le plafond, les banques sont là pour tout justement faire cette collecte d'épargne. Et ce service, il faudrait maintenant analyser les bonnes institutions, les meilleures institutions, mais qui vous offrent aussi des bonnes conditions et une certaine sécurité. Parce que c'est aussi ça le marché. Le piège dans lequel beaucoup de consommateurs des services financiers tombent, les yeux sont rivés sur le taux d'intérêt. Quand on lui dit tu déposes ici et puis tu as un taux d'intérêt de 10%, il court et il oublie tout. Mais la solidité de l'institution, son historique, il a fait combien de temps? Est-ce que ses clients sont satisfaits ou pas? Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Donc, l'institution financière peut vous offrir ce service. Mais nous avons aussi, lui-même a effleuré, le monsieur Jérémy a effleuré certaines questions et maître Ngandou aussi. C'est qu'au-delà de ça, il y a certains services qui peuvent être offerts, c'est-à-dire le transfert, l'envoi d'argent. Vous êtes ici, vous avez un parent dans une autre ville du pays.
À Mandaka,
au lieu de vous déplacer, vous pouvez faire un transfert. Aujourd'hui, les institutions financières ont développé beaucoup d'outils faciles via le SMS, via le téléphone. En un clic, vous pouvez envoyer de l'argent, même sans compte bancaire. Il peut retirer chez un fournisseur de services mobiles ou bien retirer dans un autre distributeur. Et pour les commerçants, par exemple, les paiements à l'extérieur, au lieu de se promener avec beaucoup de cash...
Monsieur Carlos, je vais revenir à vous. Retournons au standard pour donner la parole aux auditeurs. Hein. Jonas, okay. Vous êtes à Kananga. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous poser comme question par rapport à la thématique débattue?
Bonjour, Monsieur Tati. Bonjour à l'invité. Et avant de poser la question... Ce ne sera même pas une question complète. Je tiens d'abord à remercier la radio Tati pour la profondeur du sujet nous proposer tous les jours et aussi la dextérité des journalistes dans la présentation des émissions. Ça vaut quand même un coup de chapeau. Oui. Pour revenir à ce que j'allais dire, ici à Kananga où j'habite, je ne vois pas comment le peuple ou la population s'intéresse à des services financiers. Parce que, tel que je suis en train de voir les choses, ici, vraiment tout le monde travaille pour le ventre. Donc, tout le monde est en train de faire le tout sommier pour attraper le pain afin que les enfants mangent. Nous sommes dans une province où il n'y a même pas une seule entreprise. Qui fait entrer l'argent. Il n'y en a pas. C'est une province qui est, dirais-moi, administrative. Alors, c'est difficile, à mon humble avis, ici, pour la ville de Kananga. Dès lors qu'il n'y a pas d'entreprise, c'est difficile d'initier déjà les gens, la population, aux services financiers. Parce que les gens vont vous dire, bon, moi, je disais, par exemple, vous me demandez d'aller déposer un peu d'argent sur l'épargne à la banque. Alors qu'à la maison, il y a beaucoup de besoins qui se posent. Quand je dirais à la banque prendre cet argent et puis venir subvenir aux besoins du foyer, c'est impossible.
Mais Jonas, à Kananga, ne nous dites pas qu'à Kananga, il n'y a pas de banques commerciales et des structures de microfinance, d'épargne et de crédit dans la ville de Kananga. C'est pas vrai ce que vous dites.
Il n'y a pas d'entreprise. Avant d'aller à la banque, monsieur Tati, il faut quand même avoir des moyens.
Est-ce qu'il existe des banques commerciales, dans la ville de Kananga ou pas?
Bon, moi je vois qu'il y a une banque, la Banque Centrale du Congo est là, il y a la banque commerciale, une banque commerciale, elle est là. À partir de cette banque-là qu'on paye les agents. Mais il se pose aussi un problème, ceux qui reçoivent l'argent à partir de la banque, il y a toujours beaucoup de plaintes. Quelqu'un, par exemple, reçoit le salaire de 120 000 francs et l'enseignant, et j'ai moi là, on me dit, bon, je pense que c'est plus 100 000, c'est 100 000 francs. On me dit, non, quand quelqu'un veut réclamer, on dit, la machine a coupé, allez poser le problème à la machine. Et tout ça, ça pose des frustrations dans le chef des clients. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne savent pas faire des transactions avec la banque. Parce qu'il y a des coupures, il y a des surfacturations, des fois, et ainsi de suite. J'avais peut-être pensé, dans la mesure du possible, que si le pays, nous avons un pays potentiellement riche, le pays peut, pour aider tout la ville de Kananga, multiplier des succursales, des banques commerciales, et puis créer aussi des industries afin d'embaucher des gens qui puissent avoir l'argent qu'il faut garder à la banque. Dans ce cas-là, ça ira. Mais si on laisse le pays dans l'état où il est, je pense que le peuple ne sera pas bien couvert les financiers dont les questions aujourd'hui.
Merci beaucoup, M. Jonas Kabila. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kananga. Allons cette fois-ci à Lubumbashi pour donner la parole à M. Crispin Moulumba. M. Crispin, bonjour.
Bonjour Tati, bonjour à notre invité, bonjour également à tous les millions d'auditeurs qui écoutent la radio au Capi à ce moment.
Bienvenue dans Capi Service et quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, j'ai une petite question à poser à notre invité. Avant d'y arriver, je voulais juste, vraiment ça avait beaucoup d'inquiétude, hein. Rappelez-vous de l'histoire de la banque, vraiment qui date de longtemps, Kadeko, hein, si j'ai une bonne mémoire, mm-hmm. avec cette mauvaise histoire que vous connaissez. À mon humble avis, je vois que ce n'est pas la corde, ce n'est pas le puits qui est plus court, mais plutôt c'est la corde qui est plus courte. Donc la corde pour moi, c'est juste la crédibilité hein, de toutes ces banques-là. J'ai aussi un événement un peu malheureux qui m'est arrivé moi, quand j'étais encore en première licence, j'étais en train de faire les dépôts sur une banque de la place, ici à Lubumbashi. Les gens sont venus avec un bon discours, mais à la suite, vraiment, j'étais un peu déçu de la manière où nous nous sommes convenus avec eux. Imaginez-vous, ils m'ont dit, chaque fois que tu auras besoin de faire les retraits, vraiment, nous sommes disponibles. Alors, chaque fois que je faisais, j'ai déposé l'argent, et à un moment donné, au moment opportun, je suis allé pour avoir mon argent, ils m'ont dit, non, désolé, on n'a plus d'argent. Alors que nous nous sommes dit que chaque fois, même s'il pleut, vous pouvez passer là-bas et retirer votre argent sans difficulté. Et ils m'ont dit, bon, moi, si vous voulez prendre une partie, j'ai dit, bon, une partie, ça ne peut pas aller parce que je dois payer le Minerval. Ils m'ont dit, il est repassé 10 jours après, et 2 jours après, je suis revenu, je me suis rendu compte que les portes étaient fermées. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens se sont volatilisés dans la nature. Et par rapport à ça, je voulais vous poser la question à notre invité. Comment je peux encore donner encore la crédibilité à toutes ces banques dès lors que vraiment je suis victime de cet événement. Donc c'est ce que je voulais un peu poser un peu à notre
Merci
invité
beaucoup, pour monsieur. La journée de Merci beaucoup, monsieur Crispin Moulumba. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Allons cette fois-ci dans la ville de Bandundu pour donner la parole à monsieur Glody. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Bienvenue dans Capi Service. Quelle est la réalité qui se dégage au niveau de la ville de Bandundu? Est-ce qu'il y a des banques qui offrent des services financiers intéressants à la population congolaise, à la population de Bandundu, de la ville de Bandundu?
Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi-même, je suis le victime de cet accident-là. En 2013, quand je travaillais encore chez Ex-Tigo, alors... Moi-même, j'ai tombé victime de ça parce que j'ai déposé mon argent dans les comptes et les banques étaient fermées. C'était une microfinance, alors c'était fermé. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je parle, j'ai perdu mon argent comme ça. Et la seconde chose, c'est que ici, vraiment, il n'y a pas des activités bancaires qui se passent au niveau de la ville parce que la vie sociale n'est pas stable. Alors, comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Et la seconde chose, c'est que je voulais ajouter, ce sont les témoignages que je suis en train de vous dire. Ici, au niveau de la ville, il y a des microfinances, il y a des banques de crédit qui donnent, mais leurs conditions vraiment ne sont pas sérieuses. On peut vous dire autre chose, mais à la fin, on change encore autre chose. Il y a des gens qui sont victimes de ça, et on a même des preuves palpables à la prochaine émission, si on peut sensibiliser ces gens-là qui peuvent intervenir en direct ou encore qui peuvent témoigner par rapport à ça. Donc, on a des preuves, si on parle comme ça, on a des preuves qui sont concrètes et qui sont sérieuses. Donc, la question, c'est que je vais poser à l'invité, c'est que bien sûr, lui, il est le DG. Nous, dans notre pays, nous avons des choses qui sont vraiment très sérieuses. Notre pays traverse de problèmes très, très sérieux, sur tous les plans, je vous dis, et je m'excuse pour ça, sur tous les plans. Alors, quand nous faisons des études comme ça, nous devons donner des solutions qui sont concrètes ou encore à proposer au gouvernement congolais. Comme ça, le gouvernement congolais peut voir des choses comme ça et le gouvernement peut changer la méthodologie de faire les choses. Notre pays peut évoluer. Aujourd'hui, pour avoir les accès au niveau de banque, c'est seulement des gens qui travaillent dans les ONG. Mais les fonctionnaires de l'État n'ont pas ces capacités-là. Pourquoi? Parce que le salaire est minime. Alors, par exemple, quelqu'un, on le paye 120 000 francs. À la banque, il doit garder combien? Et à la maison, il doit garder combien? C'est impossible avec ça. Alors, lui, à l'invité, quelles sont les conditions requises qu'on peut avoir des salaires micro-banques ou encore banques financières qui donnent des crédits? Quelles sont les conditions requises? Parce que nous avons vu des problèmes qui sont déjà passés dans les années antérieures, les banques empruntent l'argent, les banques donnent, comment je l'appelle, le banque donne un individu l'argent, mais il est en train de calculer ça sous forme de l'intérêt comme s'il a pris le banque Lambert. Or, ce n'est pas le cas dans les autres pays. Les banques sont là pour encourager la population qui n'a pas de moyens de prendre un crédit, et puis se débrouiller avec ça, et à la fin, il peut donner le fait que quelque chose à la banque. Mais c'est le contraire.
Lodi, il y a toujours un taux d'intérêt, hein, lors de la signature de la clause, oui.
Il y a le taux d'intérêt qui est très très élevé. Alors, je pose la question à monsieur l'invité de savoir, il peut donner des solutions qui sont concrètes. Quelles sont les conditions requises pour que, avant que vous puissiez installer votre micro de crédit, il faut avoir un capital de combien et qu'est-ce qu'il faut procéder et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question que j'ai voulu poser à M. Lodi.
Merci beaucoup, M. Lodi. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Bandundu. M. Carlos, il y a Jonas Kabinda qui a décrié le service tel qu'il est rendu auprès des clients au niveau de la ville de Kananga. Un fonctionnaire qui se pointe au guichet d'une banque, il reçoit un salaire de 120 000 francs, mais il ne peut retirer que 100 000.
Oui, c'est toujours un problème. C'est toujours un problème. Je reviens au problème d'éducation financière. Je reviens au problème d'une stratégie nationale intégrée qui implique la partie gouvernementale, qui implique les services financiers comme acteurs et les consommateurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est un triangle, c'est un trio qui peut, pour répondre à ceux qui pensent à la solution, résoudre ce problème. On ne peut pas le faire de façon isolée. Je répète que dans le secteur financier, il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce plan. Il y a 15 ans, pour nos auditeurs, déjà voir une institution de microfinance ou déposer de l'argent, malgré sa bonne volonté, c'était impossible. Je me rappelle, à l'époque, en 2004, on devrait ouvrir une institution financière qui aujourd'hui est la ProCredit transformée Equity. Les conditions qu'une banque locale nous a imposées, c'était minimum 5 000 $. On dit, ok, on vient avec les 5 000. Ils disent, oui, les 5 000 ne suffisent pas, un directeur doit vous parrainer. Bon, et il faut un comité qui doit valider.
C'est-à-dire beaucoup de conditions. Oui.
L'accès était pratiquement compliqué. Alors, si on revient au thème de l'accès, je dirais qu'il y a beaucoup d'améliorations.
Beaucoup d'évolutions.
Maintenant, les conditions d'accès, c'est sur ce débat-là.
Et dans la prestation.
Alors, on doit faire la différence entre ceux qui ont des besoins de financement, c'est-à-dire, il veut un crédit, il veut un prêt, parce que c'est vrai qu'on mélange quelquefois, ceux qui ont besoin des services financiers, c'est-à-dire, ils ont des épargnes, et ils se disent, j'ai mon argent, mais je veux donner à une institution fiable pour gérer.
Et les clients aussi doivent bien lire les clauses lorsqu'ils contactent, pendant la signature du contrat avec la banque.
Oui, le piège est que lorsqu'on y va, on ne cherche pas les meilleures conditions, mais on cherche l'institution financière qui nous accepte. Parce que ce n'est pas toutes qui acceptent. Ça, c'est la grosse problématique aussi que beaucoup rencontrent. Surtout en province, je vous comprends, peut-être qu'il n'y en a que deux. Et personne ne peut vous offrir. Et quelquefois, on se sent contraint. Là, je parle du crédit. On se sent contraint de prendre le prêt. Et aussi, ceux qui ont un peu d'épargne, ils se sentent un peu contraints de déposer de l'argent parce que quelquefois, bon, on n'a pas de choix, mais on se dit, si je dois déposer de l'argent, c'est un commerce. Si je dois déposer de l'argent, c'est-à-dire que je dois avoir absolument un revenu. C'est-à-dire qu'il faut commencer par... Quel est le besoin? Pourquoi on a besoin d'une institution financière? Est-ce pour épargner? Est-ce pour un crédit? Ou pour avoir d'autres services dont on a besoin, comme les transferts, comme les transactions? Donc ça, c'est déjà un point où je comprends les solutions au niveau du gouvernement. Il y a plusieurs propositions qui sont faites, mais... c'est pas demain que ça se ferait, mais moi je conseillerais à nos auditeurs plutôt de prendre les conseils qui concernent leur personne aujourd'hui et l'attitude face au secteur tel qu'il se présente. Certes qu'il y a des améliorations, mais qui prendront encore du temps. Mais il faut savoir le besoin, pourquoi j'ai besoin de cette institution, quel est mon intérêt, et c'est à partir de là que vous pouvez vous décider en ce moment de placer de l'argent ou pas placer. Alors, certains ont dit, on n'a pas de revenus, on n'a pas d'argent, parce que on reste dans une logique où une banque, c'est pour ceux qui ont de l'argent et pour y aller, je dois avoir de l'argent. Non, la banque offre aussi des services. C'est-à-dire que vos 120 000 francs, ne me dites pas que vous les dépensez 30 minutes après.
Non.
Là, c'est un problème. Mais même vos 120 000 francs, normalement, doivent passer par un circuit qui vous faciliterait de faire les passer ces transactions.
Oui.
Aujourd'hui, par exemple, nous avons le mobile money. Aujourd'hui, nous avons, comme j'ai dit, il y a des institutions qui ont développé des petits outils qui vous permettent pardon, de circuler votre faible revenu.
Jean-Paul, je reviens à vous. Excusez-moi, M. Carlos.
Oui.
Nous donnons la parole au dernier auditeur hein, qui appelle depuis la ville de Calémy. Bonjour, M. Jean.
Bonjour, c'est Jean-Paul Ilunga.
Monsieur Jean-Paul, vous intervenez depuis la ville de Calémy. Quel état de lieu faites-vous hein, sur les services financiers offerts par des banques et institutions de microfinance basées à Calémy?
C'est déplorable, monsieur. En tout cas, ça, si ce point vraiment nous demandons à l'éviter de pouvoir faire beaucoup de sensibilisation. Qu'elle nous mette vraiment les choses au sérieux parce que nous devons réformer l'homme congolais. Vous savez, en commençant par le haut cadre politique de notre pays, personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'il a fait compte dans quelques banques de la place. Ils mettent leur argent dans les banques britanniques et consorts. Ils ne font pas confiance à nos banques. Et commence d'abord à faire confiance à nos banques et que les banques soient sérieuses comme ça. Le petit peuple pourra aussi faire confiance à ces banques qu'il faut que ravir les petits moyens que nous avons.
Monsieur Jean-Paul, oui, allez-y rapidement, posez la question directement à notre invité, Monsieur Carlos Kalambay.
Oui, je pose la question à Monsieur Carlos Kalambay. Quelle est la politique que la BCC met en place pour amener tous les Congolais à faire confiance à nos banques nationales?
Merci beaucoup pour la question. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Calémy. Il y a Zédastin qui est à Kananga, qui a également une préoccupation. Monsieur Zédastin, bonjour. Le dernier auditeur, il est dans la ville de Kananga. Malheureusement, non, il n'est plus en ligne. Jean-Paul voulait avoir une idée sur les conditions que la Banque centrale met en place pour certifier la crédibilité des banques commerciales qui sont implantées ici en RDC.
Oui, il y a des conditions d'agrément par rapport aux institutions financières. Donc, pour les banques, nous savons qu'il y a quelques années, le capital minimum était de 1,5 million. Et il y a, je crois, 5 ans, on l'a majoré à 5 millions. Et puis, passé à 10 millions. Et aujourd'hui, je pense que depuis cette année, le capital minimum des banques est de 30 millions. Et l'année prochaine, ce capital va passer à 50 millions. C'est quoi le capital? Ce sont les fonds que les propriétaires
loge à la banque centrale,
investissent, ok, et qui sert en quelque sorte de couverture à la contrepartie des risques ou des dépôts qu'ils prennent de la part de la clientèle. Donc ce sont ces fonds qui forment la solidité d'une institution. Et très souvent quand l'institution tombe en faillite, c'est-à-dire que les avoirs même de l'institution vont en deçà des engagements qu'ils ont envers la clientèle. Et généralement ce sont les dépôts, les crédits, mais aussi sa façon de gérer l'argent, bon, en termes faciles, l'argent qu'il collecte des clients et l'argent qu'il prête. Parce que c'est le même panier. Ce qui explique qu'à un moment donné, lorsqu'il prête de l'argent ou lorsqu'elle prête l'institution financière de l'argent au public, et si le public ne rembourse pas ce prêt, ça crée un déséquilibre entre ce qu'il a collecté et ce qu'il a prêté. Donc c'est un cercle vicieux, en quelque sorte. Donc la Banque centrale, son rôle, c'est de vérifier que cette efficacité et cette solidité y est. Au niveau des institutions de microfinance, nous avons les institutions de microfinance simples qui ont un capital qui doit être...
Monsieur Carlos, la réalisation me fait signe que l'auditeur de Kananga est revenu, il est en ligne, on va lui donner la parole. Monsieur Zédastin, bonjour.
Bonjour,
rapidement, quelle est la question que vous avez à poser à notre invité par rapport à la thématique débattue?
Oui, vraiment, je suis vraiment très content pour passer une fois encore à la radio comme une intervention. Mais j'avais beaucoup à dire sur ce sujet, mais c'est comme si tout le monde a déjà parlé à ce que je veux dire. Mais ce que moi je veux dire à cette thématique est que, comme nous allons auprès de la banque de crédit, ou banque, ou microfinance, ou aux banques commerciales. On l'a toujours exigé une garantie matérielle, pas une garantie personnelle. On a toujours dit de déposer quand même quelque chose. Après votre départ, cette histoire-là sera vendue pour garantir au moins les risques que les banques pourront encore... Que la banque peut se retrouver en cas de non-paiement. C'est pour cette raison. Je suis en train de demander à l'invité. Ce ne sera pas comme une suggestion si, par exemple, la Banque centrale, comme il est au sommet des autres institutions financières, d'exiger aussi à toutes les autres institutions financières, quand il veut opérer dans des opérations financières, qu'il puisse un peu garantir aussi au client, dans le sens que si, par exemple, lui ne travaille plus ou bien ne perd plus, qu'il puisse un peu vendre tout ce qu'il a ou prendre l'argent qui peut être dans son compte pour un peu payer à ses clients ou à ses abonnés en cas de problème.
Merci beaucoup, Zedatel. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kananga. On n'a plus assez de temps. Un autre invité, M. Carlos Kalambayi, le DG de FPM. Donc, nous acheminons vers la fin de cette interview. Zedatel fait allusion aux hypothèques. Ben, c'est toujours recommandé. C'est d'où l'importance au fait de l'éducation financière que vous avez évoquée. Et qui doit assurer cette éducation financière à la population congolaise?
Oui, il y a ce que nous appelons aujourd'hui un programme national de l'éducation financière qui a été initié par la Banque centrale avec certains partenaires au développement. Et dans ce programme, plusieurs personnes ont été formées. Et ce programme ira jusqu'à être intégré dans le programme d'enseignement dès l'école primaire, secondaire et pour les professionnels en fait du secteur. C'est vrai que ça va prendre beaucoup de temps. Mais je pense que des émissions comme celle-ci que vous initiez à Radio Capi, coup de chapeau, peut permettre déjà une certaine sensibilisation. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, c'est déjà une sorte de sensibilisation.
Vous, à votre niveau, au niveau du FPM, qu'est-ce que vous faites de concret pour faciliter l'accès à vos services à la population congolaise?
Bon, ce que nous faisons au niveau du FPM...
En quelques mots, parce qu'on n'a plus assez de temps.
Nous encourageons les institutions financières à ce jour à pouvoir faire, offrir des services financiers aux petites et moyennes entreprises et aux populations à faible revenu. Ça, c'est notre rôle. C'est-à-dire, nous luttons contre la pauvreté en les appuyant sur le plan financier, c'est-à-dire, on injecte de l'argent, on fait des prêts, et sur le plan assistance technique, c'est-à-dire que nous avons un autre véhicule d'assistance technique qui, au fait, appuie ou accompagne les banques dans leurs initiatives d'offrir des services financiers.
Et les clients qui vous accompagnent, leurs conditions de vie, ça s'améliore? Est-ce qu'il y a amélioration chez les clients, auprès des clients que vous accompagnez sur terrain?
Oui, évidemment, il y a beaucoup d'améliorations parce que depuis 4 ans, nous avons déjà injecté près de 27 millions de dollars au profit des petites et moyennes entreprises et des personnes à faible revenu jusque-là. Et je dirais que quand nous voyons les financements des PME, il va en augmentant en fait les 5 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a un impact qui est fait. Certes, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'éléments, mais l'évolution, il y en a, et il y a des acteurs qui sont pour pouvoir améliorer davantage.
Merci beaucoup, M. Carlos Kalambayi. Je le considère comme votre dernier mot. Merci d'avoir été avec nous dans Capi Service. Okay. À la fois prochaine, nous vous inviterons pour en parler davantage.